Vous écoutez France Culture.
Le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Nous prendrons connaissance dans un instant des dernières informations en provenance d'Indonésie quelques heures après une éruption volcanique et un tsunami qui a frappé Java et Sumatra. Ouverture socio-économique à Cuba conformément à une nouvelle constitution fraîchement votée et bientôt soumise au peuple par référendum en février. Explication de Nadine Epstein. Le président palestinien Mahmoud Abbas se conforme lui à une décision de la Cour constitutionnelle et dit avoir l'intention de dissoudre le Parlement, correspondance de Marine Vlaovic. Shimra Roten, dernier combattant du soulèvement du ghetto de Varsovie, est parti à l'âge de 94 ans. Son portrait avec Laura Dulieu. Également au sommaire de cette édition, les enjeux de la garde à vue du djihadiste Peter Sherif, arrêté tôt ce matin à sa descente d'avion en provenance de Djibouti, lieu de son arrestation. Et puis la face cachée du globe signée Nabila Hamel qui s'intéresse à la situation en Libye, toujours aussi délicate. L'anak Krakatoa, Krakatao en javanais, est entré en éruption. Ce volcan dont le nom est légendaire est à l'origine d'un tsunami qui a ravagé les plages du nord de Sumatra et de l'est de Java. Le bilan humain est encore très incertain car ce sont des hameaux qui ont été dévastés. Les autorités parlent de 222 morts, de centaines de blessés et de dizaines de disparus. Dernière précision en date avec à Jakarta, Joël Brunner.
Il était environ 21h30 ce samedi lorsque l'anak Krakatao, comme l'appellent les Javanais, est entré en éruption. Cette éruption aurait alors entraîné des glissements de terrain sous-marins qui, conjugués à l'ampleur inhabituelle de la marée en cette nuit de nouvelle lune, ont engendré le tsunami qui a frappé à la fois l'île de Java à l'est et celle de Sumatra au nord. Les premières images de destruction laissent notamment voir des hameaux de bord de mer où les maisons les plus proches de l'eau ont été saccagées par les flots. Une voiture y est par exemple fichée dans un mur, alors que plusieurs habitations sont réduites à un tas de décombres écroulés sous le sable. D'autres images de cette nuit montrent des gens paniqués qui cherchent à rejoindre les hauteurs, lampe de poche à la main, pour se protéger de la vague. Dans un premier temps, en l'absence de séisme, l'agence indonésienne des catastrophes avait pourtant indiqué aux populations concernées de ne pas paniquer, pensant simplement à une marée plus puissante qu'à l'accoutumée, avant de s'excuser ce matin pour cette erreur. Ces derniers mois, l'archipel indonésien a déjà été frappé par une série de catastrophes naturelles, à l'image d'un séisme sur l'île de Lombok, puis d'un tremblement de terre suivi d'un séisme à Palu, sur l'île des Célèbes. En 2004, c'était là aussi, au mois de décembre, un autre tsunami, là encore déclenché par un tremblement de terre, au large des côtes indonésiennes d'Aceh, avait causé la mort cette fois de plus de 200 000 personnes à travers l'océan Indien. L'Indonésie, le plus grand archipel du monde, est situé sur une zone baptisée la ceinture de feu du Pacifique, qui compte près de 130 volcans actifs, et où la rencontre de trois plaques tectoniques crée également une forte activité sismique régulière.
Le régime nicaraguayen s'en prend de nouveau aux rares médias indépendants qui étaient en mesure de travailler depuis le début, il y a 8 mois, d'une vaste campagne de répression. Le président du Costa Rica, pays qui accueille des dizaines de milliers de démocrates qui fuient le Nicaragua, déplore ce matin, je cite, « l'escalade de la répression contre la presse ordonnée par Daniel Ortega et son clan ». L'esprit d'ouverture, cette fois à Cuba, où les députés viennent d'approuver à l'unanimité un projet de nouvelle constitution. Le texte sera soumis à un référendum qui se tiendra le 24 février. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Nadine, ouverture, disions-nous, mais à quel chapitre ?
La nouvelle constitution cubaine apporte deux grands changements. Un, elle reconnaît la propriété privée, le marché et l'investissement étranger. Dans les faits, progressivement, l'économie s'est ouverte et aujourd'hui, près de 600 000 Cubains travaillent dans le privé, soit 13% des salariés. Deux, elle crée la fonction de Premier ministre et impose une limite d'âge et de durée de mandat du président. Pour autant, un principe reste souverain. L'État socialiste garde les rênes de l'économie. Le communisme est maintenu avec le système du parti unique et la mainmise de l'État sur l'île. Le texte qui a été adopté au Parlement est loin de celui qui est arrivé sur le bureau des parlementaires après la consultation lancée auprès des Cubains. Pendant 3 mois, 8,9 millions de personnes sur une population de 11 millions ont participé au débat sur la nouvelle constitution à rédiger. Près de 800 suggestions, initiatives, corrections, changements et abrogations d'articles ont été collectées, ce qui fait dire aux autorités de La Havane, je cite, Cette constitution était une expression authentique du caractère démocratique et participatif de notre peuple, car elle est née de lui et recueille ses sentiments. Toutefois, la commission chargée de la rédaction du nouveau texte a modifié 60% des souhaits formulés par les Cubains. Dans un pays soumis à l'unanimité nationale depuis plus de 50 ans, cette nouvelle constitution est un progrès, réagissent les Cubains qui appellent à voter le « oui ». Le 24 février, les anti-Castro font déjà campagne pour le non, estimant, ouvrez les guillemets, dire que ce n'est que dans le socialisme et le communisme que l'être humain atteint sa pleine dignité est une insulte à l'intelligence.
Merci à vous, Nadine Epstein. Bruit de bottes turques dans le nord de la Syrie. Ankara envoie des renforts militaires entre Jarablus et Manbij, une zone contrôlée par les forces kurdes. Le président palestinien à la manœuvre, Mahmoud Abbas, a l'intention de dissoudre le Parlement contrôlé par ses rivaux du Hamas et d'ainsi respecter une décision de la Cour constitutionnelle. Ramallah, Marine Vlaovic.
Après avoir réduit la livraison d'électricité dans la bande de Gaza, puis les salaires des fonctionnaires, c'est maintenant la Cour constitutionnelle, un organe créé de toutes pièces par l'autorité palestinienne, qui a eu raison du Conseil législatif palestinien. Un parlement moribond, dominé par le Hamas et qui ne s'est pas réuni depuis 2007, date de la prise de contrôle de Gaza par le mouvement islamiste. Mahmoud Abbas s'est engagé à exécuter cette mesure immédiatement, mais il faut rester prudent sur son application. Le raïs de 83 ans, inamovible, bien que décrié, et à la tête d'une institution défaillante, est un grand habitué des effets d'annonce. C'est cependant une attaque en règle et un geste politique fort visant à ôter toute légitimité au Hamas. Vive réaction de ce dernier qui considère cette mesure comme illégale, tout en accusant le Fatah de creuser encore un peu plus les divisions palestiniennes. Aucun espoir de réconciliation à l'horizon, l'autorité palestinienne a récemment décliné une offre de médiation russe. Difficile donc dans ce contexte d'imaginer la tenue d'élections législatives dans les 6 mois qui suivront cette dissolution, comme l'exige la Cour constitutionnelle.
Avril 1943, le ghetto se soulève, le ghetto de Varsovie. 13 000 morts après l'acharnement des troupes nazies sur ces habitants de ce quartier de la capitale polonaise, habitants révoltés. Le dernier combattant de ce soulèvement vient de partir, nom de guerre, Kadjik. Son portrait, avec vous Laura Dulieu.
Bonjour, son vrai nom était Simcha Rotem, il est mort hier à l'âge de 94 ans. C'était le dernier des survivants, peu nombreux, du ghetto de Varsovie. Après l'invasion de la Pologne, les Allemands avaient alors créé un quartier spécial pour les Juifs dans la capitale, un ghetto pour les exterminer par la faim, la maladie ou la déportation. Et le 19 avril 1943, alors que les nazis entrent dans le quartier pour le raser avec les derniers milliers de Juifs encore présents, ils se heurtent à une révolte surprise. Cette révolte, c'est l'œuvre de quelques centaines de jeunes juifs mal armés et parmi eux, il y a Simcha Rotem, alors âgé de 19 ans seulement. L'opération allemande devait durer 3 jours, elle prendra finalement presque 1 mois. Vous l'avez dit, 13 000 juifs ont été abattus, brûlés ou gazés, les autres ont été déportés. Quelques-uns ont survécu, dont Simcha Rotem qui a réussi à exfiltrer une poignée de combattants par les égouts. Il se fondra ensuite dans la population pendant plusieurs années avant de participer à l'autre insurrection de Varsovie. C'était en août 1944, aux côtés cette fois des résistants polonais. Et puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Simcha Rotem est parti s'installer en Israël où il a vécu le reste de sa vie.
Merci à vous, Laura Dulieu. Arrêté le 16 décembre à Djibouti, en garde à vue à Paris depuis la fin de nuit, Peter Sherif, djihadiste faisant partie de la filière dite des buts de Chaumont, est entre les mains des enquêteurs de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il a été interpellé dès son arrivée à l'aéroport de Roissy. Laurélie Carive.
Menotté et sous escorte, Peter Sherif a embarqué hier soir de Djibouti dans un vol pour Paris. Dès son arrivée sur le sol français, le djihadiste a été placé en garde à vue. Il est entendu en ce moment dans les locaux de la DGSI à Levallois-Perret pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Il s'agit d'une prise de choix pour l'antiterrorisme hexagonal. Cadre d'Al-Qaïda au Yémen, ce Français de 36 ans était aussi un ami d'enfance des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo. Au départ, Peter Sherif, c'est d'abord un délinquant de quartier qui bascule dans la radicalisation et part en Irak au début des années 2000. Rattrapé, il est jugé en 2011 à Paris dans le dossier de la filière djihadiste des buts de Chaumont, mais il s'enfuit au dernier jour de son procès. Direction le Yémen, où il devient un membre actif d'Al-Qaïda, ACPA, qui, on le rappelle, a revendiqué l'attaque de Charlie Hebdo en 2015. Pour autant, jusqu'ici, Peter Sherif ne faisait pas l'objet de mandat d'arrêt dans le cadre de l'instruction que les juges viennent de boucler. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures.
La guerre contre le terrorisme dans le Sahel à l'agenda d'un déjeuner de travail ce dimanche entre les présidents tchadiens et français. Hier au QG des forces françaises de l'opération Barkhane, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les gilets jaunes et a lancé « C'est maintenant l'ordre qui doit régner, le calme et la concorde ». Fin de citation. Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. La Turquie a envoyé des renforts militaires à proximité d'une zone contrôlée par les forces kurdes. 35 chars ont traversé hier soir le poste frontalier de Jarablos. Depuis l'annonce du retrait américain de Syrie, Ankara n'a pas caché son intention de combattre les groupes kurdes du nord de la Syrie. En ligne de mire, les FDS, milices qui luttent contre les djihadistes et se voient désormais privées du soutien militaire américain. Menace de nouvelles tensions également entre la Russie et l'Ukraine en cette fin d'année. Moscou a déployé hier une dizaine d'avions de chasse en Crimée. Il était le demi-frère de l'actuel roi Salman d'Arabie et donc l'oncle du prince héritier, MBS. Le prince Talal Ben Abdelaziz est mort hier à l'âge de 87 ans, un membre atypique de la famille royale. Dans les années 60, il était proche des thèses nationalistes de l'Égyptien Nasser, puis il avait été un défenseur inlassable des réformes dans une monarchie ultra-conservatrice. Si les Saoudiennes ont été autorisées cette année seulement à conduire, le prince Talal défendait ce droit depuis fort longtemps. Cap sur la Libye, où le maréchal Haftar ne décolère plus depuis la saisie dans un port de l'ouest du pays de conteneurs censés transporter des matériaux de construction, mais dans lesquels on aurait trouvé des armes et des munitions en provenance de Turquie. L'homme fort de Benghazi demande une enquête internationale. Le ministre turc des Affaires étrangères s'est rendu hier auprès des autorités de Tripoli, reconnues internationalement, et promet lui aussi l'ouverture d'une enquête. Hasni Abidi, bonjour.
Bonjour.
Cette affaire nous renvoie aux accusations d'ingérence que se lancent régulièrement les deux frères ennemis de l'Est et de l'Ouest, et cela risque de compliquer encore plus un processus politique déjà bien fragile.
Les accusations lancées par le maréchal Haftar ne sont pas nouvelles, mais cette fois-ci, elles sont insistantes dans la mesure où le gouvernement de Tripoli lui-même est en position délicate, puisqu'il n'arrive pas à assurer la sécurité à Tripoli, mais dans la région qu'il contrôle. Et aussi, il y a certaines craintes d'une possible attaque menée par les forces de maréchal Haftar contre Sirte, contre Misrata et probablement même contre Tripoli. Le deuxième élément, c'est le contexte. C'est un contexte très difficile aujourd'hui en Libye, après l'échec de l'organisation des élections qui était prévue avant la fin de cette année. On s'achemine plutôt vers un référendum sur la Constitution et sur une nouvelle date pour les prochaines élections. Et ces accusations réciproques, d'ailleurs, montrent qu'il y a une volonté ferme des deux parties d'avoir une certaine primauté sur l'espace politique libyen contesté par deux forces majeures.
Outre ce bras de fer entre les autorités de l'Est et de l'Ouest, est-ce de l'info ou de l'intox, le nom de Saif al-Islam Kadhafi était cité récemment comme homme pouvant jouer un rôle dans le pays. Il en aurait fait part au Kremlin via des émissaires. Cette hypothèse d'un retour en politique est-elle crédible dans la Libye d'aujourd'hui ?
Il y a une certaine popularité aujourd'hui qu'on trouve, et il faut le reconnaître, à Saif al-Islam al-Kadhafi, parce que il y a un vide. Il y a le maréchal Haftar, certes, à l'Est, mais il est contesté à la fois par certains de ses proches, mais aussi à l'Ouest. Sans oublier qu'il y a un grand vide autour de Tripoli, c'est-à-dire autour du gouvernement de M. Sarraj. Et c'est pourquoi Saif al-Islam se profile comme le candidat par défaut. Le deuxième élément qui est à mon avis important, c'est que Saif al-Islam al-Kadhafi veut absolument à ce que son camp, la Libye, en quelque sorte des militaires de l'ancien colonel de la Libye, de l'administration, est derrière lui. Aujourd'hui, Haftar se profile comme un militaire capable de faire régner la sécurité en Libye. S'il y a une candidature de Saif al-Islam, ça veut dire que le camp adverse aux islamistes, le camp de l'Est en quelque sorte, sera divisé. Mais on peut dire que rien que candidat, Saif al-Islam peut déranger, peut compliquer la séquence politique libyenne.
À rappeler tout de même que Saif al-Islam Kadhafi est recherché par la CPI. Merci à vous, Hasni Abidi. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. 300 chercheurs, dont plusieurs prix Nobel, vont debout contre la cession prévue du magazine Science et Vie. Le mensuel appartient au groupe Mondadori, qui est en négociation pour vendre sa filiale française. Les journalistes de Science et Vie avaient eux-mêmes affirmé craindre que des groupes d'intérêts peu scrupuleux remettent en cause leur ligne éditoriale ou imposent leur vue sur des sujets scientifiques. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, merci à vous Nabil Hamel. Le temps de l'après-midi en quelques mots, doux partout, pluvieux au nord. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux à la technique, Clément Daté.